Pourquoi ressent-on du plaisir? Lorsqu'on ressent un plaisir, c'est toujours par surprise. Par exemple, j'ai faim et je cherche à me nourrir. Cela peut même devenir une urgence, un besoin. J'ai conscience peu à peu que cette souffrance peut devenir mortelle si elle se prolonge trop longtemps. J'ai faim, on me donne quelque chose à manger, quelque chose qui va satisfaire ce besoin. Et il se trouve que non seulement alors je n'ai plus faim, négativement en quelque sorte, mais que je ressens du plaisir, et même un plaisir qui peut avoir des degrés. Cela peut être plus ou moins agréable, cela peut être un plaisir plus ou moins raffiné, cela peut aller simplement de la cessation de la faim à un plaisir très raffiné. Je dis alors que j'ai mangé un mets délectable, que c'était un plaisir divin. Il y a des degrés dans le plaisir qui, d'une toute façon, doivent nous intriguer, mais on n'est pas assez étonné par l'existence même du plaisir. Bien sûr, Épicure, dans un geste majeur de la philosophie antique, Épicure avait démontré que la cessation même du besoin, que le contraire de la peine était déjà un plaisir en soi. Autrement dit, que la vie n'est jamais neutre, que la vie était souffrance ou plaisir, et que quand la souffrance s'arrête, ce n'est pas simplement un acte stable, neutre, en quelque sorte, un acte blanc, où il y aurait juste le contraire et l'absence de la douleur. Non, l'absence de la douleur est déjà un plaisir, mais on ne s'en étonne pas assez, surtout que la cessation de la douleur elle-même est vraiment un plaisir qu'on pourrait dire minimal, un plaisir qui peut être absolument sans qualité. Je me réfère souvent au texte extraordinaire de Germaine Tillion dans son livre sur l'Algérie en 1957, où elle étudie les ravages de la misère dans la campagne algérienne et où elle se rappelle son expérience de déportation. Elle explique alors qu'il y a deux expériences de la faim, F-A-I-M, du besoin de se nourrir. Il y a une expérience justement où le plaisir a quasiment disparu. Une expérience de faim tellement radicale qu'elle est remplie de manière presque uniquement quantitative par la nourriture. Elle dit alors que seule la quantité compte, c'est de se remplir l'estomac, de ne pas mourir. Alors le plaisir est vraiment minimal et on peut dire bien sûr qu'il y a un plaisir, mais il y a en fait peut-être même ici la disparition, le degré vraiment zéro à presque absolument zéro du plaisir qui est simplement négatif, celui en quelque sorte de ne pas mourir. Mais dès qu'on sort de ce degré zéro du plaisir humain et on ne s'en étonne pas assez, le geste de se nourrir, par exemple, n'est pas seulement négatif et neutre, mais positif et qualitatif. Ce n'est plus seulement la quantité qui vient répondre à un manque, mais c'est la découverte d'une qualité. Aussi minimal soit-il, le plaisir est qualitatif. Il nous donne à rencontrer le contenu d'un objet, le contenu qualitatif d'un plat, d'un fruit, d'un légume, de ce que nous dégustons, d'une boisson qui va se distinguer d'un autre. Il y a telle eau par opposition à telle autre, elle est fraîche ou elle ne l'est pas. Nous pouvons distinguer, nous pouvons nous orienter dans le monde par des différences qui sont qualitatives, par la variété du monde, d'un monde qui est vivant non seulement en nous, mais dans les choses et en lui-même. Et le plaisir nous découvre en réalité la dimension relationnelle de la vie, la découverte des différences, la découverte du monde lui-même dans sa diversité. Alors bien sûr, il faut s'orienter dans cette diversité des plaisirs, mais on sait déjà une première orientation qui est le risque de la quantité, le risque que le plaisir se réduise à son degré zéro dans l'absence ou dans la radicalité du besoin et de la détresse, ou bien au contraire de concevoir l'accumulation quantitative des plaisirs. Non, le plaisir a quelque chose de qualitatif. Le plaisir, c'est la différence entre les plaisirs. C'est peut-être l'un des problèmes, l'une des jouissances, mais aussi l'un des risques de l'humanité dans lequel il faut savoir s'orienter.